Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
h sur Radio Présence, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose, votre émission hebdomadaire présentée par la paroisse étudiante de Toulouse pour vous accompagner dans ce premier jour de la semaine ensemble et comme chaque lundi en direct avec moi Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir Enzo.
Alors comment était le week-end ?
Très très bien, très reposant.
Très reposant, ça dépend pour qui, mais surtout une grande surtout une grande joie de voir les Anglais perdre à Murrayfield dans le tournoi Destination, n'est-ce pas ?
Tout à fait, toujours.
Alors, au programme de l'émission Louis-Marie.
Alors, des chroniques, de la musique et la rediffusion d'un entretien qui a été réalisé l'an dernier, il me semble.
Oui, c'est ça, ouais, par Léopold et Rachel, avec Marie Binet et l'abbé Emmanuel Boulanger sur la chasteté, la sexualité. Puis Louis-Marie, on va te retrouver aussi tout au cours de l'émission avec des chroniques qui sont basées sur Lourdes aujourd'hui, c'est bien
oui,
ça.
On va tourner autour du sujet de Lourdes parce qu'on fêtait les apparitions de Notre-Dame de Lourdes la semaine dernière et cette semaine, en fait, Sainte Bernadette.
Et bien voilà, le programme est lancé, c'est parti pour Soif d'autre chose. Et pour commencer la soirée ensemble, on va écouter Jean-Jacques Goldman, il suffira d'un signe sur Radio Présence, c'est tout de suite.
Je vis loin, bien loin. Tu
Retour de Sauf d'autres choses, comme tous les lundis, première chronique de l'émission Louis-Marie. Aujourd'hui, on parle de Notre-Dame de Lourdes.
Et oui, on écoutait à l'instant Il suffira d'un signe. Et bien là, il y en a plus qu'un, parce qu'on va parler des apparitions de Lourdes. Donc, tout a lieu dans une petite grotte au pied des Pyrénées en 1858. Et là où Notre-Dame a transformé le regard des pèlerins du monde entier. Aujourd'hui, des milliers de personnes viennent chaque année à Lourdes, attirées par un message de paix, d'espérance et d'amour. Mais qu'est-ce que ce message? Pourquoi tant de cœurs se tournent-ils vers ce lieu si humble et discret? Tout commence avec une jeune fille, donc, qui a 14 ans, c'est Bernadette Soubirous. Elle est pauvre, elle est malade, presque invisible aux yeux de la société de l'époque. Et c'est pourtant à elle que la Vierge Marie apparaît 18 fois, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle. Lors de la troisième apparition, le 18 février, Marie confie à Bernadette « Ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessaire de le mettre par écrit ». Signifiant que ce message est d'abord une expérience du cœur plutôt qu'un discours intellectuel. Et déjà, le ton est donné. Un message d'amour, un message qui s'adresse à chacun, quel que soit son âge, son histoire, sa condition sociale ou sa santé. L'invitation est simple, ouvrir son cœur à Dieu, apprendre l'humilité, apprendre à accueillir la dignité de chaque personne comme aimée de Dieu. Un autre moment marquant survient lorsque l'on demande à Marie si elle peut donner son nom. Elle répond en bigourdant, un dialecte occitan propre à la région de Lourdes, en disant ces paroles, « Que soy era immaculada conceptio »,« Je suis l'immaculée conception ». Ce nom est lourd de sens, il affirme que Dieu regarde chacun avec tendresse, qu'il appelle à une vie purifiée, non par des mérites humains, mais par la grâce de la croix du Christ. L'eau de la source, découverte à la demande de la dame, devient elle aussi un symbole puissant. Marie invite Bernadette à aller y boire et à aller s'y laver. Cette eau, aujourd'hui encore, jaillit sans cesse et a été le point de nombreux récits de guérison et de réconfort. Mais au-delà des récits miraculeux, cette eau rappelle un autre trésor. Au fond du cœur humain, aussi blessé qu'il puisse être, coule la vie même de Dieu. Si l'on accepte de creuser comme Bernadette l'a fait dans la boue ou dans la grotte. Un autre aspect essentiel du message de Lourdes est un appel à la conversion. Le mot répété par la dame est pénitence. En cette période qui approche du carême, c'est aussi l'occasion de nous rappeler de toujours aller puiser à cette source qu'est le sacrement de réconciliation. Ce terme donc de pénitence à comprendre comme un retournement du cœur vers Dieu et vers les autres, un choix de bienveillance, de compassion et d'écoute. L'invitation à bâtir une chapelle est aussi une demande qui a été affirmée par Marie, ainsi que de venir en procession. Ce n'est pas seulement un fait historique, mais ça symbolise un appel à cheminer ensemble, à marcher côte à côte dans la vie, à être solitaire avec nos frères et nos sœurs, et spécialement les plus faibles. Le message de Lourdes n'est donc pas une simple curiosité du passé, il est une invitation à l'espérance, il nous rappelle que Dieu ne fait pas de promesses illusoires de bonheur facile dans ce monde, mais qu'il ouvre une perspective d'amour vrai dans l'autre monde. Un monde où le cœur est transformé par la lumière de sa présence. À Lourdes, ce n'est pas seulement l'eau qui attire, c'est l'espérance d'un cœur renouvelé, capable de porter l'amour là où règne la souffrance, la solitude et les blessures. Un message d'amour qui continue à résonner, aujourd'hui avec force, appelant chacun de nous à ouvrir son cœur.
Merci beaucoup Louis-Marie. On pourra méditer sur ta chronique. On va écouter dans quelques instants l'Ave Maria de Lourdes avec Jean-Paul Léco, suivi de Clara Luciani avec La Grenade. Et puis on se retrouve juste après pour l'entretien sur Radio Présence. Très bonne soirée, on se retrouve.
Oh! je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Chani, la grenade sur Radio Présence. On retrouve tout de suite Léopold, Rachel et Mathéo pour leur entretien avec Marie, et avec Marie Binet et Emmanuel Boulanger.
Emmanuel, vous êtes diacre à la paroisse étudiante de Toulouse depuis septembre, c'est ça, si je ne me trompe
c'est
pas.
C'est bien ça.
Okay. Et Marie, vous êtes conseillère familiale et conjugale. Vous préparez également des gens au mariage et vous êtes prof au séminaire, c'est bien ça?
Oui, et je suis aussi sexologue.
Ok. Et ben, on a vraiment la joie de vous accueillir ce soir pour discuter d'amour, de sexualité et de chasteté. Je pense que pour commencer un peu ce sujet, peut-être qu'on peut parler un peu des bases et commencer par définir ce qu'est la chasteté, peut-être.
C'est pas une base, hein. Mais on va déjà très très en profondeur dans le sujet. Alors. Je peux commencer, le père, Emmanuel continuera.
Oui.
En fait, la chasteté, telle que je pourrais la dire d'un point de vue anthropologique, serait, avant d'en donner une dimension spirituelle, c'est de pouvoir respecter la personne dans toute sa dignité, son intégrité, qu'elle soit physique, psychologique, affective, morale, spirituelle. Et donc, du coup, de pouvoir être dans une relation où chacun est vraiment respecté dans cette intégrité, dans sa dignité. Après, quand on en donne une dimension spirituelle, c'est la manière la plus pure de donner et recevoir de l'amour.
Ok.
Je crois que ça se passe de commentaires. Je n'aurais pas dit mieux.
Ça,
j'aurais bien dit ça, effectivement. Mmh. La chasteté, c'est vraiment cet élan, cet acte que tout homme a... pour recevoir l'autre et ne pas se l'accaparer, en fait, c'est accepter l'autre comme il est et ne pas en faire juste un objet.
Oui.
Non, on accueille l'autre vraiment et ça, c'est la chasteté normalement vécue. Et effectivement, ça concerne toutes les dimensions de notre être, donc notre corps, notre esprit, notre âme aussi.
Oui, c'est vrai que je pense que c'est important de le dire parce que, notamment chez les jeunes, mais je pense que ça peut concerner tout le monde, on peut avoir cette idée que la chasteté, c'est juste... une absence de relation sexuelle, alors que évidemment c'est pas le cas, et je pense qu'il faut c'est important de le rappeler au début de cette émission.
Mais alors justement, comme vous avez dit, donc la chasteté, c'est vraiment le regard qu'on pose sur l'autre et pas du tout, enfin c'est pas du tout la même chose que la continence, ce que disait Rachel sur l'absence de relations sexuelles. Mais alors comment est-ce qu'on vit nous la chasteté aujourd'hui concrètement, en tant qu'étudiant, en tant que jeune pro, peut-être il y a des jeunes mariés aussi qui nous écoutent ou des mariés, des vieux mariés, enfin qui veut, comment on vit la dans notre situation la chasteté.
Marie, je commence.
Alors, c'est une question déjà assez poussée dans le sens où, je dirais, avant de parler de la chasteté, c'est déjà comment, en tant qu'homme et en tant que femme, on vit sa propre affectivité, sa propre sexualité, c'est-à-dire la relation à soi-même. En fait, la sexualité, ça n'est pas que l'expression sexuelle de soi-même. La sexualité, c'est la manière dont, dans notre féminin et notre masculin, nous sommes au monde. Et donc, ça demande déjà de se dire, mais quelle est la relation que j'ai avec mon corps, avec mes émotions, avec ma façon d'aimer, d'être aimé, et donc dans mes relations avec les autres, avec le monde, et avec moi-même d'abord. Parce qu'on parle de chasteté vis-à-vis de l'autre, mais on peut ne pas être chaste avec soi-même. Donc, c'est comment on a déjà, on va se fortifier à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux se donner et mieux recevoir l'autre. Et ça, bah, quand on est jeune, bah, je dirais qu'on est un peu en découverte de tout ça, en construction, mais je vais rassurer les jeunes, on est en construction toute sa vie. Donc, c'est en permanence qu'on chemine et qu'on continue d'apprendre comment aimer, sachant qu'on est appelé à aimer, c'est notre chemin de sainteté, à aimer comme le Christ nous a aimés, nous a montré le chemin, et que ça, bah, c'est toute notre vie que nous avons à nous convertir. Et la sexualité est un lieu de conversion, que l'on soit célibataire, qu'on soit marié ou qu'on soit dans une vie consacrée.
Waouh, c'est beau.
Et oui, tout à fait. Et effectivement, il y a dans nous, notre Église, notre Église catholique, la chasteté se vivra différemment selon notre état de vie. Donc, il y aura quelques spécificités, mais tous nous sommes appelés à être chastes. Donc, comme tous nous sommes appelés à être saints, ben, en fait, tous nous sommes appelés à être chastes aussi. Voilà, mais ça se manifestera différemment selon notre état de vie. Donc, si on est marié, si on est célibataire, voilà, si on est religieux, religieuse, prêtre, pape, bon, voilà.
Il n'y en a qu'un.
C'est pas venir à tout le monde, ça.
Du coup, on peut poser la question peut-être de la pertinence de la doctrine de l'Église par rapport à la question de la sexualité. Et est-ce que la doctrine a évolué avec le temps? En fonction de l'époque. Parce que je sais que, par exemple, jusqu'au XIe siècle, on avait des prêtres qui avaient des enfants avant leur ordination. Donc, on a eu une évolution de la doctrine. Comment aborder ce sujet?
Alors, déjà, faut bien distinguer parce que il y a deux disciplines en tout cas concernant des prêtres qui ont des enfants. Il y a l'Église catholique latine, donc nous, voilà, et l'Église catholique orientale. Dans l'Église catholique orientale, il y a des hommes mariés qui peuvent devenir prêtres. Voilà, c'est pas des prêtres qui se marient, hein, c'est des hommes mariés qui peuvent devenir prêtres. Donc, ils ont des enfants et ils peuvent devenir prêtres aussi, ce qui n'est pas pareil pour la discipline du sacerdoce dans l'Église latine, où là, on demande le célibat. Donc déjà, c'est deux manières de voir différentes. L'Église a jugé bon de conserver ces deux manières de voir différentes et de faire, on se dirait, comme deux richesses. D'accord ? Dans l'Église catholique orientale, toutefois, les évêques, ce sont des prêtres qui n'étaient pas mariés avant. Donc, c'est toujours des célibataires. Donc, voilà, il y a quand même un ordre. Bon, donc c'est vrai. Je ne prendrai pas le risque de m'aventurer sur l'histoire, en fait, l'évolution historique. Bah, je pense qu'elle est assez complexe. Et ça, peut-être dans une autre émission ou une autre fois, faire venir un historien de l'Église. Qui sera peut-être plus juste que moi sur cette évolution pour les prêtres qui ont des enfants. Voilà.
C'est vrai que, enfin, c'est beau et c'est intéressant, même si je pense que pour certains c'est encore un peu tabou et c'est dommage. Mais c'est vrai que l'Église a un parti pris qui est fort sur la sexualité et je pense que ça demande aussi beaucoup ça peut être parfois difficile de le comprendre, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je sais pas, peut-être que Marie, est-ce que vous avez eu le... Enfin, je suppose que vous avez eu, voilà, l'occasion, enfin, vous avez l'habitude d'entendre des gens vous demander des conseils, voilà, des jeunes qui soient en couple ou non, sur comment gérer cette chasteté au quotidien en tant que chrétien.
Alors, avant de parler de chasteté, la question qui se pose, c'est comment vivre la sexualité, et on me pose souvent la question en permis défendu. Et quand on pose la question comme ça, on piège la question et du coup la réponse devient très compliquée. Ce n'est pas une question de permis défendu.
Oui.
On est sur, je le disais tout à l'heure, un chemin. C'est-à-dire, l'Église, elle invite à vivre une sexualité pour, dans le cadre d'abord d'une relation d'amour,
oui,
en vue d'être féconde. C'est une relation qui est appelée à être féconde. D'un point de vue concret, par l'accueil d'enfants, et d'un point de vue relationnel et même spirituel, par une action dans le monde qui va rayonner de l'amour. Le couple est appelé à rayonner l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour du Christ pour son Église.
Mm-hmm.
Ça, c'est la fécondité propre du sacrement de mariage. Mais un prêtre qui va être ordonné et qui ne va pas vivre une sexualité sexuelle est quand même appelé à rayonner à travers l'homme qu'il est et à travers son appel sacerdotal, aussi cet amour en aimant l'Église, en devenant époux de l'Église.
Mmh.
Et les religieux et les religieuses sont appelés aussi. Et tout ça, c'est une façon aussi de vivre sa sexualité, parce que c'est avec tout ce que l'on est, le
oui,
corps y compris.
Mmh.
Simplement, c'est pour ça que je faisais la différence tout à l'heure, il y a l'expression sexuelle de la sexualité et l'expression relationnelle et affective.
Oui.
Donc quand on est en couple, on est appelé à vivre la sexualité dans toutes ses dimensions. Et ça demande un apprentissage qui dure toute la vie. La sexualité, quand on a 25, c'est pas la même que quand on a 60 ans.
Oui.
Ça demande aussi d'abord d'apprendre à se connaître et à connaître l'autre dans une dimension intérieure. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de difficultés qui arrivent dans la sexualité des couples quand on cherche à ne donner que le corps en oubliant le cœur, les émotions, la dimension vraiment très profonde de chacun. La sexualité, dans ces cas-là, elle marche difficilement. Donc, on voit bien que c'est important de prendre le temps de se connaître. Et c'est ce que l'Église invite. Voilà. C'est d'abord apprenez à vous connaître pour que toute la dimension charnelle prenne complètement son essor, son plein épanouissement, parce qu'il y aura deux cœurs qui auront appris à se parler. Et les corps se parleront beaucoup plus facilement après.
Oui.
Et est-ce que... il y a deux questions un peu dans ce que je dis, c'est est-ce que on peut atteindre donc cette forme de connexion, enfin c'est juste cette connaissance de l'autre hors mariage où il y a vraiment cette dimension sacramentale qui fait que vraiment on se connaît pleinement déjà avant le, je veux dire avant l'acte sexuel, et si oui, alors bah pourquoi est-ce qu'on attend le mariage pour avoir des relations sexuelles?
D'un point de vue purement humain, une relation sexuelle, elle sera bonne avant ou après le mariage. Voilà. À partir du moment où les partenaires s'entendent bien, voilà. Mais il y a une chose fondamentale quand on est croyant, c'est que le sacrement vient consacrer cette union. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que il y a une rencontre des corps et de cœurs pour le plaisir, mais pas que. Il y a une dimension transcendante que les conjoints sont appelés à vivre pour vivre une union, une communion au-delà même de ce qu'ils sont en train de vivre dans leur relation sexuelle. Et ça, c'est la consécration par le sacrement de mariage. Donc un couple qui ne se marie pas ou un couple qui n'est pas croyant peut vivre des relations sexuelles, et je l'entends, hein, où ils ont la sensation de vivre vraiment quelque chose de très uni, même de communion, ils utilisent le mot. La différence avec le sacrement, c'est que c'est consacré dans l'amour de Dieu. Et donc, il y a vraiment un appel particulier pour le couple à ce moment-là, à vivre son amour et à le faire grandir, jusque dans le partage sexuel.
Comment réagir dans une relation où le choix de la chasteté n'est pas compris? Et est-ce qu'il faut forcément être un chrétien pour vivre la chasteté à deux?
Alors, qui dit chasteté, dit aussi liberté. Dans un couple chrétien qui veut vivre la chasteté, une, si on est là pour parler de sexualité, une vraie sexualité bien réussie, c'est une sexualité où les deux sont pleinement libres. Donc si on a un qui ne compte pas trop la chasteté, qui veut vivre la chasteté, alors bien sûr on entend, est-ce que c'est un couple marié ou pas, ça va se manifester différemment. Il faudra d'abord beaucoup de dialogue, moi je dis, pour pouvoir aller voir, mais qu'est-ce qui cloche en fait, celui qui n'accepte pas en fait de vivre la chasteté. Et puis parfois la vie c'est pas tout noir tout blanc, des fois il y a aussi beaucoup de nuances de couleurs entre les deux. Avant d'arriver à un terrain d'entente, et comme le disait très justement Marie, tout ça c'est un chemin. Une sexualité bien réussie, c'est un chemin. Une chasteté bien vécue ensemble, c'est aussi un chemin. Et parfois, ça peut être un chemin assez difficile. Mais voilà. Alors, est-ce que la deuxième question, pardon, c'est de savoir est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour parler de chasteté. Alors, je ne sais pas si ceux qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont pas de connaissance vraiment de la doctrine chrétienne, si ils emploieront le mot chasteté pour parler, proprement parler, mais je pense que peut-être qu'ils peuvent saisir un concept de ce qu'est la chasteté à travers peut-être le respect de l'un de l'autre, l'écoute, la bienveillance.
Ça pourrait être une loi assez naturelle quand même.
Peut-être. Oui, ça paraît, mais je pense que parfois, il faut avoir quelques jetons pour nourrir notre intelligence, pour mieux comprendre comment vivre aussi la chasteté, comment bien intégrer ça dans notre vie.
Et en parlant du coup de ces différences d'avis ou de perception, si on a un couple avec un chrétien, un non-chrétien, je lance la bombe. Moi, je pense notamment à des catéchumènes, des gens qui se convertissent, qui vivent en couple, et qui voudraient du coup découvrir un peu ce que dit l'Église à ce sujet, parce qu'ils commencent à s'attacher à l'Église. Comment on leur dit, ils vivent ensemble, mais ils peuvent déjà habiter ensemble et tout. Comment est-ce qu'on amène cette idée de peut-être qu'il est bon d'attendre le mariage, enfin l'Église dit qu'il est bon d'attendre le mariage pour vivre ensemble, pour avoir des relations sexuelles. Comment on fait, parce que peut-être ils sont très heureux ensemble et je sais pas, la personne qui ne se convertit pas, si en face il dit je voudrais qu'on arrête d'avoir la relation sexuelle, qu'on ne vive plus ensemble, oui. Comment il va le prendre, quoi, si c'est, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la rupture du couple, je suis pas sûr. Comment on aborde ces sujets?
Ce que vous abordez, c'est que de toute façon ce sont des situations qui sont maintenant à 90% pendant les préparations au mariage, puisque les couples arrivent, ils vivent déjà ensemble depuis très longtemps, ils ont des enfants. Donc le principe, c'est absolument pas de remettre en question ce qu'ils ont déjà construit. L'Église est là pour soutenir la construction, pas pour favoriser la destruction. Par contre, c'est de les faire réfléchir. Voilà, jusqu'à maintenant, vous avez vécu votre sexualité, votre relation, parce qu'on va parler de toutes les dimensions de la relation, et on va leur proposer d'avoir un approfondissement de leur perception, de leur représentation et bien sûr d'un vécu. Et ça m'arrive pendant les préparations au mariage de proposer au couple pendant un mois, deux mois avant le mariage de ne plus avoir de relations sexuelles, d'avoir une forme de continence, parce qu'un couple n'est pas appelé à l'abstinence, hein. Donc une continence pendant quelques temps de manière à se recentrer sur la relation et avoir une relation sexuelle après l'échange de consentement. Parce que je rappelle que le sacrement de mariage n'est réellement complètement accompli et valide qu'avec une relation sexuelle. Donc du coup, de vivre pleinement l'échange de consentement, puis la relation sexuelle pour se redonner l'un à l'autre à la suite de cette consécration du lien. Voilà. Et je vois qu'il y a certains couples qui sont assez sensibles à cette proposition, qui peut paraître très surprenante, et en même temps qui permet quelquefois de se redécouvrir, de se relier autrement.
En rapport avec ça aussi, c'est vrai que cette émission, elle s'adresse quand même beaucoup aux jeunes, et je pense qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont eu des relations sexuelles avec la personne avec qui ils sont ou pas, mais en tout cas, des couples dans lesquels les deux parties ont ce désir de chasteté, ont cette envie, mais voilà, qui peuvent rencontrer des difficultés. comment les accompagner? Qu'est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des habitudes de prière, des habitudes à prendre tout court pour en fait faciliter cette démarche?
Alors, la première, je reprends ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est la notion de liberté. Parce que même une bonne obéissance se veut libre. Mm-hmm. Donc, quel serait le sens pour eux de devenir continent? Il y a une finalité qui doit être commune. Et je pense que c'est un chemin qui est très intéressant. Et en même temps, je dis attention de ne pas y aller n'importe comment, parce que ça peut créer des troubles dans la sexualité après le mariage.
Oui.
Donc, on y va, on décide ensemble quelles sont les motivations, quelles sont les raisons, quelles finalités on poursuit ensemble, quels sont les moyens qu'on se donne, combien de temps ça doit durer. Voilà, je pense que c'est important de tenir compte des réalités de l'un et de l'autre, et aussi de la manière dont le couple s'est construit. Et c'est vrai que là, ça vaut le coup d'être accompagné pour maintenir une bonne entente et continuer de construire.
Oui. Et je ne sais pas, peut-être l'abbé Emmanuel, vous avez des habitudes d'un point de vue, aussi chrétien, peut-être théologique, je ne sais pas, des conseils de prière aussi à donner à un couple qui a envie de marcher dans ce chemin.
Alors déjà, comme on dit, c'est aussi une grâce quand même qu'on reçoit du Seigneur, donc déjà demander le secours de l'Esprit Saint d'abord, parce que prendre une habitude nouvelle, oui, quand on l'a pas, c'est pas forcément évident humainement parlant. Je veux dire, si on veut faire un régime, ben dès qu'on va avoir un paquet de bonbons, on a envie de sauter dessus. Ben c'est pareil. Surtout s'il y a une phase de privation, à un moment donné, il faudra quand même avoir un bon secours spirituel d'abord, s'ancrer dans la prière,
oui,
et puis voir vraiment intérioriser pour voir mais quels sont vraiment nos combats, nos faiblesses aussi, qu'est-ce qui peut nous faire chuter, les moments propices qui sont des moments de tentation, donc les éviter. Par exemple aussi, c'est bête, oui, hein, si on aime trop le coca, ben on a juste qu'à pas acheter le coca, je dirais, ou ne pas passer dans le rayon.
Oui.
Bon, voilà. Et puis, aussi, mais c'est apprendre à avoir d'autres activités, par exemple, faire du sport pour pouvoir se changer les idées, avoir une hygiène de vie saine, une hygiène de vie qui est saine, oui, c'est bien ça. Après, je pense c'est chacun qui se connaît aussi, mais oui, un couple qui a envie de vivre ça, oui, c'est bien qu'il se fasse accompagner. S'il veut aussi, il peut demander conseil à des gens qui, comme Marie, peut-être une expérience dans le domaine, ou aussi à des religieux, religieuses, des prêtres, ou qui sont aussi formés. Certains sont formés sur ce domaine, ou au moins, même s'ils ne sont pas formés, pour avoir quelques conseils spirituels.
Oui.
Voilà. Mais le tout, c'est de ne pas brûler les étapes, et comme dit Marie, c'est important d'aller pas à pas pour ne pas détruire quelque chose et aller vers le chemin du mieux avec la grâce de l'Esprit Saint.
Yeah. taf, je te dis les thunes. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Et dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Eh ben y en a encore. Eh ben y en a encore.
Romaé avec Alors on danse sur Radio Présence, Louis-Marie, deuxième et dernière chronique de l'émission. On reste toujours dans le thème de Notre-Dame de Lourdes et cette fois-ci on va s'intéresser à Sainte Bernadette Soubirous.
Exactement, donc on voyait tout à l'heure les récits un peu des apparitions et maintenant on va parler plus précisément de la protagoniste principale, enfin secondaire si on la fait passer après Marie bien évidemment. Il s'agit de Bernadette Soubirous qu'on fête mercredi, donc ce sera en même temps que le mercredi des cendres hein, qui prendra bien évidemment le dessus. Mais donc voilà, quand on évoque Sainte Bernadette Soubirous, on pense forcément à Lourdes, à la grotte, à la foule. Mais avant les cierges et les processions, il y a une enfant pauvre, très pauvre même, et un décor âpre, presque rude, celui des Pyrénées du milieu du 19e siècle. Bernadette naît en 1844 à Lourdes, dans une famille de meuniers. Son père François travaille dur, mais la misère s'installe peu à peu. Les affaires vont mal, et la santé aussi. La famille est contrainte de quitter le moulin, et il se retrouve alors dans un milieu qui marquera à jamais son imaginaire, le cachot. Un ancien local de prison, humide, sombre et à peine habitable, une seule pièce pour toute la famille, peu d'air, peu de lumière et peu de pain. Bernadette y grandit fragile, souvent malade et asthmatique, mal scolarisée. Elle parlait à peine le français, s'exprimant surtout en patois bigourdant. Il faut savoir d'ailleurs que ce cachot est toujours visible aujourd'hui, donc on peut encore le visiter. Je sais pas si Edno y est déjà allé.
Du tout.
Eh bien, on se sent vraiment très à l'étroit et on voit vraiment la mesure de la pauvreté.
Et il est où dans Lourdes ?
Alors, il est pas loin du centre-ville. Il est accessible assez facilement. Et on y trouve quelques objets ayant appartenu à Bernadette. Et on voit vraiment que c'est resté en l'état. Et c'est vraiment très, très particulier de se tenir dans cette pièce-là. Donc, on y pensera quand on ira à Lourdes. Et donc rien n'est prédestiné.
Un teasing pour certaines émissions.
On en parlera plus tard. On en parlera. Revenons à notre sujet. Et donc dans ce cadre-là, rien ne prédestinait Bernadette à devenir une figure universelle. Et pourtant, le 11 février 1858, Bernadette a 14 ans et ce jour-là, elle part ramasser du bois avec sa sœur et une amie près de la grotte de Massabielle au bord du Gave. Et tandis qu'elle enlève ses bas pour traverser l'eau, elle entend comme un souffle. Elle lève alors les yeux et voit une dame, jeune, lumineuse, vêtue de blanc, ceinte d'un ruban bleu. Bernadette ne comprend pas, elle a peur, mais elle prie. L'apparition ne parle pas ce jour-là, elle sourit seulement. Et ce sera la première d'une série de 18 apparitions, comme on l'avait dit, qui ont donc commencé le 11 février, le jour où on fête Notre-Dame de Lourdes, et qui ont terminé le 16 juillet. Les jours suivants, la rumeur se répand, on se moque, on soupçonne, on l'interroge. Bernadette est convoquée, questionnée par la police, par les notables et par l'église aussi. Elle répète toujours la même chose, avec une étonnante constance, elle ne cherche ni à convaincre, ni à embellir. Parmi ceux qui écoutent avec méfiance, il y a un curé, celui de Lourdes, l'abbé Péramal, un homme rude, direct, peu enclin aux exaltations mystiques. Il veut des preuves et il exige un nom. Lors d'une apparition, Bernadette transmet cette demande et le 25 mars 1858, comme on l'a vu tout à l'heure, la dame prononce une phrase mystérieuse en patois, donc en bigourdan, « Que soy era Immaculada Concepcio »,« Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette ne comprend pas ces mots, elle les répète telle quelle au curé, comme une enfant récitant une formule apprise par cœur, et l'abbé est bouleversé, parce que le dogme, celui de l'Immaculée Conception, a été proclamé seulement 4 ans plus tôt par le pape Pie IX. Et donc c'est impossible, enfin, on peut vraiment se demander comment est-ce qu'une jeune fille ignorante aurait pu inventer une telle chose. L'affaire dépasse Lourdes, l'évêque du diocèse, Mgr Bertrand Sévère Laurence, ouvre une enquête canonique, longue et rigoureuse. Bernadette est interrogée encore et encore. Elle reste simple, droite et sans variation dans ses récits. Et en 1862, l'église reconnaît officiellement les apparitions. Pendant ce temps, la foule afflue, des curieux, des sceptiques et des malades. Bernadette, malgré tout, devient le centre de l'attention. On veut la voir, on veut la toucher, on veut lui raconter encore le récit des apparitions. Et elle ne cherche qu'une chose, c'est disparaître. On dira plus tard, enfin, elle-même dira plus tard de ses apparitions, qu'on l'a seulement chargée on m'a chargé de vous le dire et non de vous le faire croire. Sa notoriété pèse, elle refuse toute faveur, elle refuse l'argent, elle refuse même l'idée d'être spéciale. Et pour se soustraire au tumulte, elle entre en 1868 au couvent des Sœurs de la Charité à Nevers. Là-bas, elle n'est plus la voyante de Lourdes, elle devient Sœur Marie Bernard, une religieuse parmi d'autres, pas de privilèges, au contraire, on lui rappelle souvent qu'elle est qu'une petite paysanne. Elle travaille à l'infirmerie et à la sacristie, elle obéit, mais elle souffre. Sa santé se dégrade, la tuberculose osseuse prend la place, des douleurs constantes, elle vit dans la discrétion, l'humilité et parfois l'incompréhension. Quand on l'interroge sur les apparitions, elle reste sobre, comme si tout cela appartenait déjà à un autre monde. Bernadette revient à Dieu en 1879, à l'âge de 35 ans, et elle est presque oubliée à ce moment-là. Mais l'histoire ne fait que commencer. Aujourd'hui encore, son corps repose à Nevers, incorrompu, et Lourdes est devenue l'un des plus grands lieux de pèlerinage au monde. Bernadette n'a rien écrit, n'a rien théorisé, elle n'a jamais laissé de témoignage, elle a laissé seulement un témoignage nu, fragile, mais d'une cohérence impeccable. Peut-être est-ce sa force, une parole pauvre dans un monde pauvre qui demande, siècle après siècle, à traverser le bruit et le doute. Une voix d'enfant venue du fond d'un cachot qui murmure encore.
Merci beaucoup Louis-Marie. Et pour méditer justement sur ta chronique, nous allons écouter Emma, c'est Madame de la comédie musicale sur Sainte Bernadette.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Comme une flamme avec l'amour pour oriflamme, sauver leur corps, sauver leur âme. Madame, vous qui entendez les prières de pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit. mélange parfait de votre sang. Pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour Oriflamme, sauver leur corps, sauver leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis et vous salue.
Présence.
We miss
c'est elle qui plaît quand on fait la java le samedi à Baudouin. Ça sonne comme un doudou. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais.
La Java de Broadway, il est 19h55 sur Radio Présence. Il est déjà l'heure de nous quitter en cette fin de début de soirée. Et on vous appelle aussi à nous écouter mercredi, Enzo, pourquoi ?
Parce que nous serons en direct à 19h de l'église Notre-Dame de la Dorade pour vous faire vivre la messe d'entrée dans le carême, la messe du mercredi des cendres, Louis-Marie.
Exactement, donc on sera tous les deux sur place pour vous commenter les quelques temps forts de cette célébration et pour vous faire vivre ce moment avec nous.
Merci beaucoup Louis-Marie pour ces chroniques, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi prochain à 19h en direct sur Radio Présence. Très bonne semaine à vous et très bonne soirée. Tout de suite, Nathalie Cardon avec des clés pour vivre.
Bonne soirée.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.